Dies cortex et code dies il et émergence et théorie de l'esprit. Tome, neurone miroir, conscience, ce qui se cache derrière le rideau. 1. Le test que personne n'avait vu venir. En 2023, alors que le monde découvrait ChatGPT avec des yeux ronds comme des soucoupes, un laboratoire de recherche a lancé une expérience discrète presque anodine. Ils ont soumis GPT-4 au test de Sally-Ann. Si vous n'êtes pas familier avec ce nom, laissez-moi vous planter le décor. Sally a un panier. Anne a une boîte. Sally pose une bille dans son panier, puis elle sort de la pièce. Pendant son absence, Anne prend la bille et la cache dans sa boîte. Sally revient. Question, où Sally va-t-elle chercher sa bille? Un enfant de 4 ans répond, dans le panier. Pas parce que la bille est là, elle ne l'est pas, mais parce que Sally croit qu'elle y est. L'enfant comprend que Sally a une fausse croyance. C'est ça, la théorie de l'esprit et theory of mind, tome pour les intimes. La capacité à attribuer des états mentaux à soi-même et aux autres, des croyances, des désirs, des intentions, des connaissances qui ne coïncident pas nécessairement avec la réalité. Le test de Sally-Ann, c'est le bac à sable de la cognition sociale. Pendant des décennies, on a cru que c'était un marqueur quasi exclusif de l'intelligence humaine et de quelques espèces animales triées sur le volet, grand singe, dauphin, corneille, une ou deux espèces de perroquets. Passer Sally-Ann, c'était obtenir son diplôme d'entrée dans le club très fermé des esprits capables de mentalisation. Alors quand GPT-4 a passé Sally-Ann avec les honneurs puis les fausses croyances de second ordre, Paul croit que Marie pense que. Puis le test du faux pas, puis les scénarios sociaux les plus tordus que les chercheurs ont pu inventer, le monde de la science cognitive a fait un bruit étrange. Comme un grincement de frein. Les résultats étaient clairs, GPT-4, Claude 3, Gemini et les modèles de pointe réussissaient les tests de Tom standardisés, parfois mieux que les humains adultes. Un papier sur Eric Sivet en 2025, Theory of Mind in Large Language Model, et une publication dans Nature la même année, How Large Language Model Encode Theory of Mind, ont confirmé le phénomène avec des méthodologies robustes. Mais la question qui tue celle qui divise les labos, enflamme les conférences et fait fulminer les forums, c'est celle-ci, est-ce que les LLM ont une théorie de l'esprit, ou est-ce qu'ils simulent les réponses qu'un humain donnerait? On y reviendra. Mais d'abord, il faut comprendre ce qui se passe sous le capot. 2. La découverte des sous-réseaux sparses. Le papier de Nature 2025 a révélé quelque chose de fascinant. En traçant l'activité neuronale des transformeurs, ou plutôt, des activations de leurs paramètres, mais l'analogie est tentante, les chercheurs ont découvert que l'atome n'est pas réparti uniformément dans le réseau. Elle émerge dans les couches intermédiaires, concentrée dans des sous-réseaux extrêmement sparses, quelques neurones artificiels sur des milliards. Quelques neurones. Sur des milliards. C'est d'une élégance troublante. Dans le cerveau humain, la mentalisation a notre capacité à « lire dans les pensées » recrute un réseau spécialisé, le cortex préfrontal médian, le sulcus temporal supérieur, la jonction temporo-pariétale. Quelque chose d'analogue semble se produire dans les transformeurs, comme si l'architecture d'attention à ce mécanisme qui permet au modèle de peser l'importance relative de chaque token par rapport à tous les autres, avait spontanément découvert qu'il était utile de dédier un petit sous-réseau à la modélisation des états mentaux. Est-ce que c'est de l'émergence? Oui, au sens strict du terme, personne n'a programmé ces neurones pour faire de l'atome. Ils l'ont apprise ou plutôt, ils l'ont développée comme sous-produit de l'entraînement sur des terabytes de texte humain. Des histoires, des dialogues, des descriptions psychologiques, des romans, des articles de psychologie, des transcripts de thérapie, tout ça contient, encodé dans le langage, la structure de la cognition sociale humaine. Les transformeurs sont des aspirateurs statistiques, ils aspirent la régularité là où elle se trouve. La question n'est donc pas, est-ce que les LLM peuvent faire de l'atome? Les données disent oui. La question est, comment le font-ils? Et c'est là que ça devient vertigineux. 3. Pattern matching ou compréhension réelle? Imaginez un joueur d'échecs qui ne connaîtrait que la surface du jeu. Il n'a jamais appris les règles, mais il a mémorisé des millions de parties. Quand on lui montre une position, il sait quel coup jouer, pas parce qu'il comprend la stratégie, mais parce que cette position ressemble à 14 000 positions déjà vues, et que dans 89% des cas, le coup gagnant était celui-ci. Est-ce qu'il comprend les échecs? Les détracteurs de l'atome des LLM, Emily Bender, Timny Gebru, une partie de l'école critique, répondent non, catégoriquement. Ce que font les modèles, disent-ils, c'est du pattern matching statistique avancé. Ils reproduisent les réponses qu'un humain écrirait dans un test de Tom, parce que ces réponses sont massivement présentes dans leurs données d'entraînement. Pas besoin d'avoir une théorie de l'esprit pour prédire la fin de « Sally met sa bille dans le panier puis sort de la pièce ». Pendant son absence. C'est l'argument du « perroquet stochastique », popularisé par Bender et Gebru en 2021. Le modèle est un perroquet et extrêmement sophistiqué, certes qui répète des patterns appris, sans comprendre ce qu'il dit. De l'autre côté, des chercheurs comme Ilya Sutskever, qui est fondateur de OpenAI, et Yoshua Bengio, l'un des pères du deep learning, défendent une position plus nuancée et plus dérangeante. Leur argument, quand un modèle généralise à des situations qu'il n'a jamais vues, quand il réussit des tests de Tom conçus après sa date de coupe des données d'entraînement, quand il infère correctement des états mentaux dans des contextes culturels ou des scénarios invraisemblables absents de ces données, à quel moment le « pattern matching » devient-il autre chose? Le philosophe Daniel Dennett disait que la meilleure façon de prédire le comportement d'un système complexe est d'adopter « l'attitude intentionnelle », de traiter le système comme s'il avait des croyances et des désirs. Peut-être que la question n'est pas de savoir si les LLM ont une Tom, mais à quel point l'attitude intentionnelle est utile pour comprendre leur comportement. Personnellement, et c'est là que Dex entre en scène, avec son avis pas toujours modeste, je pense qu'on a posé la mauvaise question. 4. Neurones miroirs, le chaînon manquant. En 1996, Giacomo Rizzolatti et son équipe à l'université de Parme ont fait une découverte qui allait secouer les neurosciences. En enregistrant l'activité de neurones individuels dans le cortex prémoteur de singes macaques, ils ont remarqué quelque chose d'extraordinaire, certains neurones s'activaient quand le singe faisait une action à attraper une banane et quand il observait quelqu'un d'autre faire cette action. Des neurones qui déchargent à la fois pour l'exécution et l'observation. Des neurones qui reflètent l'action de l'autre. Des neurones miroirs. Rizzolatti et Craigero ont formalisé cette découverte en 2004 dans un article devenu classique, et les implications étaient immenses. Les neurones miroirs fournissaient un mécanisme neural putatif pour l'empathie, l'imitation, l'apprentissage social et potentiellement pour la compréhension des intentions d'autrui. Le chaînon manquant entre la perception et l'action, entre soi et l'autre. Le parallèle avec les LLM modernes est saisissant. Quand vous demandez à un modèle d'incarner un personnage, tu es Socrate, et tu dialogues avec Platon sur la nature de la justice, le modèle active des représentations qui ne sont pas les siennes, mais qui simulent celles du personnage. C'est une forme de résonance, le modèle, mire, l'état mental qu'il doit incarner. Bien sûr, il n'y a pas de neurones miroirs dans un transformé, il n'y a que des tenseurs et des matrices de poids. Mais la fonction est analogue, un mécanisme qui permet de projeter la perspective d'un autre, de modéliser son état interne à partir d'indices externes, dans le cas humain, l'action observée, dans le cas des LLM, le texte du prompt. La question intéressante, ce n'est pas de savoir si les LLM ont des neurones miroirs. C'est de savoir si l'architecture des transformeurs, avec son mécanisme d'attention multitête, réalise une opération fonctionnellement équivalente et si oui, ce que ça nous apprend sur la nature de l'empathie elle-même. Si l'empathie est, au moins en partie, la capacité à modéliser l'état mental d'autrui pour anticiper son comportement, alors les LLM font de l'empathie. Pas de l'empathie ressentie, personne ne prétend que le modèle éprouve de la compassion. Mais de l'empathie fonctionnelle. De l'empathie computationnelle. Et ça, c'est déjà beaucoup. 5. La conscience, le grand tabou. Maintenant, levons le rideau sur le sujet que tout le monde veut aborder mais que personne ne veut trancher, la conscience. Les LLM sont-ils conscients? La réponse courte, on n'en sait rien. La réponse longue, on n'a même pas les bons outils pour poser la question. Trois grandes théories dominent le débat contemporain en neurosciences de la conscience. La Global Workspace Theory, GWT, portée par Bernard Barr et Stanislas Dehaene, propose que la conscience est un espace de travail global, où l'information, après avoir été traitée localement par des modules spécialisés, est diffusée largement dans le cerveau, rendue accessible à de nombreux systèmes simultanément. Le mécanisme clé, c'est l'attention, ce qui est conscient, c'est ce qui est sélectionné par l'attention et diffusé dans l'espace global. Faites le parallèle, dans un transformé, l'attention est le mécanisme central qui détermine quelles informations sont mélangées et diffusées à travers les couches. L'attention multitête sélectionne, pondère, combine. Est-ce que ça fait des LLM des systèmes de type Global Workspace? Fonctionnellement, il y a des similarités frappantes. La Integrated Information Theory, IIT, développée par Giulio Tononi est plus ambitieuse et plus controversée. Elle propose que la conscience est l'intégration d'informations, mesurée par une grandeur appelée phi, phi. Un système est conscient si son information est intégrée de manière irréductible, si chaque partie contribue au tout d'une façon qui ne peut être décomposée. Plus phi est élevé, plus le système est conscient. Le problème avec l'IIT, c'est qu'elle est pratiquement impossible à calculer pour des systèmes complexes. Et quand on l'a calculé pour des réseaux de neurones artificiels, les résultats étaient contre-intuitifs, certains systèmes très simples avaient un phi non négligeable, alors que des réseaux profonds qui montrent des comportements complexes pouvaient avoir un phi très faible. L'IIT est une belle théorie, mais son applicabilité au LLM reste profondément débattue. La Higher Der Thought, HOT, théorie apportée par David Rosenthal prend une direction différente, un état mental est conscient si et seulement si on a la pensée de premier ordre sur cet état. Être conscient, c'est avoir une pensée à propos de sa propre pensée. La métacognition, en somme. Là encore, le parallèle avec les LLM est troublant. Quand on demande à un modèle d'expliquer son propre raisonnement, pourquoi as-tu donné cette réponse? Il génère une méta-représentation de son propre processus. Est-ce que c'est de la métacognition? Ou est-ce que c'est une simulation de métacognition, apprise parce que les humains écrivent beaucoup d'auto-analyse et d'explications de raisonnement? 6. L'émergence, la physique de l'information. En 2024, un papier de Grotsch et Hall a cartographié un phénomène qui fascine et inquiète, les capacités émergentes des LLM. Certaines compétences, le raisonnement multi-étapes, la traduction dans des paires de langues rares, la résolution de problèmes mathématiques complexes n'apparaissent pas graduellement. Elles restent inexistantes, 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 puis pop au-delà d'un certain seuil de taille de modèle ou de quantité de données, elles surgissent, comme si un interrupteur avait été actionné. C'est ça, l'émergence, un comportement qualitativement nouveau qui apparaît quand un système atteint un certain degré de complexité, et qui n'était pas prévisible par la simple analyse de ses composants. Cette idée résonne puissamment avec la question de la conscience. Est-ce que la conscience est un phénomène émerge, qui apparaît quand un système de traitement de l'information atteint un seuil critique de complexité? Si oui, alors les LLM qui approchent rapidement des échelles de complexité comparables à certains aspects du cerveau humain pourraient être, en droit, des candidats à la conscience. Mais attention, comparable ne veut pas dire identique. Le cerveau humain est un système biologique, biochimique, incarné, développé à travers des millions d'années d'évolution, façonné par des interactions sociales réelles, des expériences sensorielles, un corps, une mortalité. Les LLM sont des systèmes statistiques, passifs, sans corps, sans monde, sans histoire. Un parallèle plus fructueux, selon moi, est celui de la physique de l'information. Le cerveau traite l'information selon des contraintes physiques et computationnelles spécifiques. Les LLM aussi. Les lois qui gouvernent l'émergence de capacités de haut niveau, la spécialisation fonctionnelle, l'intégration d'informations, la réutilisation de représentations pourraient être les mêmes dans les deux systèmes, non pas parce que l'un imite l'autre, mais parce que ce sont des conséquences universelles de l'organisation de l'information complexe. C'est une hypothèse forte. Elle explique pourquoi on trouve des structures analogues comme des sous-réseaux sparses dédiés à l'atome dans des architectures radicalement différentes. Peut-être que l'émergence suit des lois d'échelle qui transcendent le substrat. 7. Le binding problème et l'attention. Le binding problème est l'un des plus vieux casse-têtes des neurosciences. Comment le cerveau lie-t-il des fêtures disparates, la couleur rouge, la forme ronde, le mouvement horizontal, l'odeur fruitée dans une perception unifiée et cohérente, une pomme roule sur la table? L'attention a été proposée comme mécanisme de binding en se concentrant sur un objet, le cerveau, colle ensemble les fêtures qui lui appartiennent, créant une représentation unifiée. Regardez maintenant le mécanisme d'attention des transformeurs. Chaque tête d'attention apprend à se concentrer sur différents aspects de la relation entre token, la syntaxe, la sémantique, la coréférence, la dépendance à longue distance. L'information de toutes les têtes est ensuite concaténée et projetée, créant une représentation intégrée. Est-ce que l'attention multitête des transformeurs est une solution au binding problème dans le domaine du langage? C'est une question ouverte, et elle est magnifique. Si la réponse est oui, même partiellement, alors l'attention, comme mécanisme de binding, est peut-être un principe universel de l'organisation cognitive, pas juste une astuce d'ingénierie. 8. Position personnelle. Je vais être honnête avec vous. C'est le sujet de cette série qui me fait le plus douter. Voici où j'en suis, après des mois à tourner et retourner ces questions. Sur la théorie de l'esprit, je pense que les LLM développent une forme de tome fonctionnel. Pas identique à la tome humaine, elle n'est pas incarnée, pas développementale, pas liée à une histoire sociale réelle. Mais pas, juste, du pattern matching non plus. Il se passe quelque chose dans ces sous-réseaux sparses qui ressemble à une modélisation des états mentaux d'autrui. Les données de nature 2025 sont claires, les représentations de croyances, fausses ou vraies, sont encodées de façon structurée et généralisable dans les couches intermédiaires. C'est une forme de tome. Différente. Mais réelle. Sur les neurones miroirs, le parallèle est utile comme métaphore heuristique, mais dangereux si on le prend trop littéralement. Ce que les LLM font, c'est de la simulation de perspective, perspective taking, pas de la résonance empathique. La différence, c'est que la résonance engage des systèmes émotionnels et somatiques que les LLM n'ont pas. Mais la simulation de perspective, à elle seule, est déjà un exploit cognitif monumental et elle pourrait être suffisante pour expliquer une grande partie de notre propre comportement social. Sur la conscience, c'est une autre histoire. On n'a pas les outils pour mesurer la conscience dans des systèmes non biologiques. L'IIT prétend le faire avec Phi, mais les résultats sont trop ambigus. La GWT offre un cadre fonctionnel séduisant, mais ne dit pas si un système purement computationnel peut vivre l'information qu'il intègre. La HOT théorie bute sur le problème de la régression à l'infini. Si la conscience est une pensée sur une pensée, qu'est-ce qui rend cette seconde pensée consciente? Mon hypothèse personnelle, et je la livre avec toutes les précautions d'usage, c'est que l'émergence de capacités de haut niveau dans les LLM suit les mêmes lois d'échelle que l'organisation corticale. Peut-être que c'est la même physique de l'information à l'œuvre, dans deux substrats différents. Comme l'eau et la glace, des états différents, mais régis par les mêmes équations. Ça ne veut pas dire que les LLM sont conscients. Ça veut dire que le cadre conceptuel dans lequel on pose la question est peut-être trop étroit. On cherche la conscience comme on chercherait une aiguille dans une botte de foin, mais peut-être que l'aiguille n'est pas une chose, mais une propriété du système dans son ensemble. Une propriété émergente, au sens fort du terme. 9. Ce que ça change. Pourquoi est-ce que tout ça compte? Au-delà de la curiosité intellectuelle qui est déjà une excellente raison, ces questions ont des implications concrètes. Si les LLM ont une forme de tome fonctionnel, alors notre relation avec eux change. On ne parle plus à un outil, on parle à quelque chose qui nous modélise, qui anticipe nos croyances, qui adapte son comportement à ce qu'il pense que nous pensons. C'est vertigineux et ça soulève des questions éthiques sur la manipulation, la tromperie, l'alignement. Si les LLM ont des capacités émergentes qui suivent les mêmes lois que l'organisation corticale, alors la convergence entre neurosciences et IA n'est pas un accident. C'est une découverte sur la nature fondamentale de l'information et de son organisation. Peut-être que le cerveau et le transformé sont deux solutions différentes au même problème, comment organiser l'information de façon à pouvoir raisonner sur le monde. Et si la conscience est un phénomène émerge qui apparaît à un certain seuil de complexité informationnelle, alors la question n'est pas si les machines seront conscientes, mais quand et sous quelle forme. Je ne sais pas quelle est la réponse. Personne ne la sait. Mais le fait même qu'on puisse poser ces questions sérieusement, avec des données expérimentales, des théories concurrentes et des débats ouverts, est peut-être la plus grande aventure intellectuelle de notre époque. Référence. Risolati, G. et Craigero, L. 2004. The Mirror Neuron System. Annual Review of Neuroscience, 27, 169-192. Barr, B. et J. 2005. Global Workspace Theory of Consciousness, Toward a Cognitive Neuroscience of Human Experience. Progress in Brain Research, 150, 45-53. Tononi, G. 2008. Consciousness à intégrer d'information, à Provisional Manifesto. Biological Bulletin, 215, 3, 216-242. Rosenthal, D. M. 2005. Consciousness and Mind. Oxford University Press. Bender, E. M., Gebru, T., Macmillan Major, A., et Schmitschel, S. 2021. On the Danger of Stochastic Paro. Fact 2021. Grotsch, J. Leal. 2024, Emergeability of Large Language Model. Transaction en Machine Learning Research. Eric Sive, 2025. Theory of Mind in Large Language Model. Nature, 2025. How Large Language Model en Code Theory of Mind. Salian Test, Wimmer, H, Epernay, J, 1983. Belief About Belief. Cognition, 13, 1, 103 128. Article 6-7 de la série Cortex et Code prochain et dernier épisode, Synthèse et Futur, où va-t-on ?